En fait, j'aime bien rencontrer les gens et j'aime bien raconter des histoires. Et surtout quand c'est au long cours, en fait, parce qu'on apprend vraiment à connaître les gens et à aller au plus profond de l'histoire. Voilà, moi je ne suis pas du tout une photographe d'actualité. C'est trop rapide pour moi, en fait. J'aime bien que ce soit un peu plus lent et voilà, prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que les gens me racontent, analyser tout ça.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cet épisode a été enregistré à Perpignan, dans le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l'image, où comme chaque année, nous nous rendons avec les photographes du collectif DR, et c'est justement avec l'une d'entre eux, à savoir Alexandra Dedive, que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Alexandra nous parlera de son parcours ainsi que du reportage qu'elle publie dans le livre DR numéro 3, qui est actuellement disponible en précommande, le lien est en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, en le partageant ou en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie d'Alexandra et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandra, est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour Fred, alors je m'appelle Alexandra Dedive. Et je suis photographe depuis bien longtemps. J'ai commencé la photo pour faire du photojournalisme. Et puis, en fait, finalement, la vie m'a conduite ailleurs. J'ai fait beaucoup de portraits, j'ai fait beaucoup de photos d'escrime, de concerts. Voilà, je gagne ma vie avec de la photo de mariage. Un peu de corporate aussi. Et puis, en 2020, j'ai rejoint le collectif parce que c'était le moment pour moi de retrouver mes premières amours, à savoir le photojournalisme. C'était important. Et voilà.
Ouais, tu fais partie des pionnières dans DR, des premières à être entrées dans la structure, et c'est cool. Et de voir ton évolution, c'est vachement intéressant. Pour parler un peu du mariage, du corpo, donc ça, tu le fais à Bordeaux, c'est ça? Tu es basé à Bordeaux?
Oui, je suis basée à Bordeaux et j'ai développé le mariage surtout en Aquitaine, dans les Landes essentiellement. Voilà, j'en fais une dizaine par an.
Ok. Et c'est une activité que tu arrives à pérenniser depuis ces longues années, du coup
Oui, alors c'est vrai que depuis que je me suis plus occupée du photojournalisme, j'ai un peu délaissé la com sur le mariage et du coup ça a un peu baissé cette année. C'est important d'être multifonction en fait et de s'occuper de chaque poste qui est important. Et le mariage, c'est aussi une sorte de reportage, donc j'y trouve mon compte. Et voilà.
Ouais, c'est ça que je voulais te demander aussi, parce qu'on a reçu William Lamblé, que tu connais, il a fait partie de DR pendant aussi quelques années, et qui est photographe de mariage et en même temps qui s'est lancé dans la photo de presse, et qui lui cherchait à avoir les codes et puis à transférer, on va dire, des connaissances du mariage dans la presse, et ce qui a marché pour lui, parce que ça, il a fait des reportages sur des mariages pendant le confinement, ce genre de choses. Toi, qu'est-ce que tu apportes dans le photojournalisme de ton expérience de photographe de mariage, corporate, de portrait, ce genre de choses?
En ce qui concerne le mariage, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mini-reportage de la journée. Donc il faut raconter l'histoire de la journée. Alors ça ne dure qu'une journée. Moi, dans le photojournalisme, j'aime beaucoup les sujets au long cours sur plusieurs mois, mais il faut quand même être efficace sur une journée de mariage. Donc ça m'a apporté de la rigueur, oui, être performant toute la journée, ne jamais s'arrêter, et en même temps trouver quand même dans des situations pas faciles de lumière un peu de créativité pour changer, pour pas voir tout le temps les mêmes photos,
C'est
parce
un
que
mariage, c'est rébarbatif, c'est toujours pareil,
voilà,
presque.
exactement. C'est tout le temps le même processus, les préparatifs, la cérémonie, tout ça. Et donc, c'est bien de se challenger pour trouver des images un peu plus intéressantes.
Et pourquoi tu t'es orienté vers le documentaire
et la photographie de presse, le reportage à l'étranger. Tu as fait beaucoup de sujets en Inde, par exemple. Qu'est-ce qui te plaît le plus ?
En fait, j'aime bien rencontrer les gens et j'aime bien raconter des histoires. Et surtout quand c'est au long cours, en fait, parce qu'on apprend vraiment à connaître les gens et à aller au plus profond de l'histoire. Voilà, moi je ne suis pas du tout une photographe d'actualité. C'est trop rapide pour moi, en fait. J'aime bien que ce soit un peu plus lent et voilà, prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que les gens me racontent, analyser tout ça.
Ouais, et puis on le sent dans tes cadrages, que tu prends aussi le temps de faire des choses qui ne sont pas forcément très formatées ou qui ressemblent à ce qu'on voit dans les journaux régulièrement ou dans les files d'agences comme l'AFP, etc. C'est cool. On fait cette petite interview ensemble à Visa pour l'image, là, avec d'autres membres de DR pour parler aussi du livre photo qu'on édite tous les ans. Et donc, tu as un sujet qui est à l'intérieur. Tu fais partie des 15 photographes qui ont été sélectionnés pour parler d'écologie et d'environnement avec un angle un peu, bah, du coup, exotique, puisque tu es allé en Inde pour faire ce sujet-là. De quoi il s'agit ? Est-ce que tu peux nous pitcher ce sujet ?
Alors, je suis partie en Inde au départ pour faire un reportage sur les réfugiés climatiques. Et en fait, sur place, je me suis rendu compte de la monstrueuse pollution du Gange. Et comme j'ai appelé mon reportage Entre tradition et pollution, c'est surtout l'histoire, en fait, de millénaires de pollution du Gange, où les hindous sont persuadés que le Gange est tellement sacré que tous les déchets qu'ils vont y mettre vont être emportés et disparaître comme par magie. Donc, en fait, ils ne se préoccupent pas du tout du recyclage, même le tout à l'égout, ça n'existe pas là-bas. Le fleuve est sacré, tout part avec. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la pollution première du Gange. Mais il y a aussi toutes les usines de pétrochimie, de biochimie, des usines qui ont été, des industries qui ont été installées à l'époque de la colonisation britannique. Et il y en a des centaines tout le long du Gange. Les biochimies sont déversées dans le Gange, donc ça participe à la pollution. Il y a aussi les microfibres, dont on ne les voit pas à l'œil nu, d'ailleurs comme la biochimie, mais ça fait partie de la grosse pollution de ce fleuve. Et le fléau le plus récent, c'est la pollution au plastique. Par exemple, quand je documentais les berges du Gange un peu plus au nord, je me suis rendu compte que le gouvernement, après des événements, des catastrophes naturelles, des cyclones, les berges ont été creusées, exactement. Et pour parer à ce phénomène, le gouvernement, plutôt que de construire des digues en béton, ils ont posé des sacs de sable, donc des sacs plastiques remplis de sable, qui, au bout de quelques mois, se délitent. Et donc, le plastique rajoute à la pollution du Gange, en plus des emballages de plastique, les mégots de cigarettes. Et...
Ouais, et sans parler en plus des crémations qu'on voit, enfin, qu'on a vu dans plein de reportages déjà, en gros, on brûle des cadavres et on les met dans le Gange, et, parce que, tu l'as dit, c'est sacré, mais au final, ça reste une pollution...
Une pollution, et puis c'est vrai que aussi les hindous, ils font tout dans le Gange, en fait. Il y a effectivement les restes des crémations, il y a aussi, ils se lavent, donc ils jettent leurs bouteilles de shampoing après dans la rivière. Les animaux viennent manger les détritus, et beaucoup de matières fécales, de bactéries de matières fécales, parce qu'ils font leurs besoins au bord du fleuve. Et c'est, en fait, le Gange, c'est le fleuve le plus pollué du monde. Enfin, l'un des fleuves les plus pollués du monde. Et toute cette pollution se déverse dans l'océan Indien et serait la source numéro un de la pollution de l'océan Indien.
Ouais. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est un fleuve qui pollue un océan, quoi. Mm. Ouais, impressionnant. Et j'invite les gens qui nous écoutent à regarder ton reportage qui est disponible donc dans le livre. qui est également sur le site. Une partie est également sur le site du collectif DR, collectifdr.com. Le livre, c'est un des projets. Alors, c'est pas la première fois pour toi que tu es dans le livre. Hein. Je crois que tu étais dans les deux premiers, d'ailleurs, il me semble.
Oui.
Qu'est-ce que tu retires de cette expérience d'édition comme ça, collective? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi?
D'abord, c'est un très bel objet. Donc, je suis très fière d'avoir un reportage dans chaque édition, qui sont tous les trois des reportages différents et qui me tenaient à cœur. Ça m'a apporté. C'est un bel outil de communication. Moi, je les offre aux gens que j'aime et aux gens que je rencontre et pour parler de moi et du collectif, bien évidemment. Donc, ouais. C'est mieux qu'une carte de visite.
C'est clair.
Oui.
On a pu voir là, les iconographes qui venaient dans notre villa à Perpignan. Quand ils feuillettent le livre, ils sont toujours stupéfaits de voir la qualité du papier, parce que ça coûtait un bras, mais ça valait le coup. De faire un truc de qualité avec notamment Escourbiac, qui est spécialisé dans les livres photo et qui n'est plus à, dont la réputation n'est plus à refaire.
Mais et, la qualité des reportages
et
aussi.
Et la qualité des reportages, voilà.
Oui. Ils sont tous magnifiques.
Et plus largement, DR, ça t'a apporté quoi dans ton développement personnel, professionnel? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience maintenant que ça fait 3 ans que tu es avec nous, 4 ans même? Ça passe vite.
Oui. Alors, j'ai candidaté il y a 4 ans parce que j'avais donc très envie de me lancer dans le photojournalisme de presse. Et je ne connaissais pas du tout ce métier, donc j'ai bénéficié de toutes tes formations. J'avais commencé d'abord à écouter tous les podcasts, hein, que je les ai tous écoutés.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numériques que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.
De pouvoir se réunir sur Zoom parce que à cause du Covid ou parce qu'on est tous éloignés les uns des autres, déjà ça c'est pas mal parce qu'on apprend à se connaître. Et puis le rendez-vous à Visa est quand même super important, moi j'adore. Et vraiment, la communauté, c'est hyper important parce que c'est quand même un métier très solitaire, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, c'est bien de pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que toi, en fait. Et c'est facile d'échanger, de se faire des amis, de partager des informations, mais même de s'échanger du boulot aussi. Donc ça, c'est... Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, la communauté.
Ouais, ouais, c'est un des axes importants, c'est clair. Moi, je connais pas très bien la communauté du mariage. J'ai des potes qui sont là-dedans et c'est vrai que le métier de photographe de presse, c'est pas forcément simple tous les jours. Et tu l'as dit, on est toujours un peu seul et c'est un métier d'indépendant. Il y a pas de salariés enfin, il y a très peu de gens qui sont staffeurs dans des rédactions. Ça existe quasiment plus. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il y a un peu ça aussi dans la photo de mariage ou de corpo aussi, des communautés de gens qui se regroupent.
T'as déjà vu ?
Alors oui, il y a des photographes qui se regroupent, il y a des conventions, des festivals, il y a plein de choses comme ça. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus difficile en photo de mariage notamment. J'ai beaucoup souffert du fait que les gens essayent de se piquer le boulot les uns des autres. Bon, ça arrive aussi, j'imagine, dans la photo de presse, hein, mais ça m'a surtout marqué dans la photo de mariage. Donc, j'ai moins retrouvé, enfin, même quasiment pas du tout, la communauté dont j'ai besoin.
Ouais. Ouais, moi, je pense même que c'est même pire, je pense, dans la presse, le coup de se piquer des clients, parce que c'est pas forcément se piquer des clients, mais c'est juste que, à la différence d'autres métiers photo, dans la presse, tes clients sont identifiables et sont... Tu les comptes presque sur le doigt des deux mains, des gens qui sont capables, des journaux qui sont capables d'acheter des images. Donc au final, pour grossir le trait, tu aurais 10 clients pour 1000 photographes, alors que quand tu es photographe de mariage, t'as la population mondiale qui veut se marier pour X milliers de photographes, tu vois. Donc, ouais, le ratio est complètement inversé.
Oui.
Et toi, tu, après être venu à Visa comme ça plusieurs années, c'est quoi que tu retiens aussi? Est-ce que y a des choses... est-ce qu'au début, tu étais intimidé, c'était, parce que c'est flippant aussi de découvrir un nouvel univers aussi, de ne pas connaître les gens, de penser qu'on essaie de ne pas faire d'erreurs aussi, ou de bourdes, ou trucs comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais partager à quelqu'un qui n'a pas encore fait ce passage d'aller voir Visa pour l'image, par exemple, de s'intéresser au photojournalisme, des trucs, peut-être des idées reçues que tu avais avant qui se sont retrouvées être pas si pertinentes que ça, tu vois?
Non, moi, je n'en tire que du bénéfice. C'est vrai que les deux premières éditions, je ne venais que pour le collectif, mais pour les expositions. Et puis, au fur et à mesure des années, j'assiste aux débats, je vais voir des iconos, je fais des lectures de portfolio. J'ai moins de temps pour les expositions, malheureusement. Mais, ouais, en fait, c'est du travail. Mais c'est un travail quand même super sympa, quoi. Ouais. De parler de photos avec tout le monde, c'est extra, je trouve. C'est vraiment reboostant. Moi, j'adore. C'est vraiment un rendez-vous que j'attends toute l'année.
Ouais, c'est clair. Puis en plus, on est dans un bon écosystème, là, avec, un bon environnement avec cette maison dans laquelle on peut faire des soirées et tout. C'est chouette.
Ouais, c'est vraiment sympa. Et puis, j'ai eu le coup de cœur de l'année, de l'année. J'ai eu le coup de cœur de l'année cette année.
Ouais.
Donc je suis très fière.
Tu nous expliques ce que c'est l'ANI et en quoi ça consiste?
Donc l'ANI, c'est l'Association Nationale des Iconographes. Et donc on prend rendez-vous, on s'inscrit pour prendre rendez-vous et on montre son portfolio. Et donc un ou une iconographe peut donner un coup de cœur à un photographe qu'il aime bien ou dont le travail lui plaît. Et donc ça me permet de...
De le mettre en avant.
Ça me permet de mettre mon travail en avant et peut-être, éventuellement, à la fin, de gagner un prix. Le prix de l'ANI qui sera donné l'année prochaine, à la prochaine édition de Visa. Mais pour revenir à l'esprit communauté, quand je suis rentrée avec mon coup de cœur à la ville de l'ADR, tout le monde m'a félicité, c'était super chaud. Ça fait chaud au cœur, quoi. Pardon. Ça va s'entendre.
C'est pas grave, ouais. C'est le cœur, justement. Ouais. Il y a le micro.
Le micro sur le cœur, oui.
Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Et vous êtes plusieurs à l'avoir eu, donc c'est chouette, bravo. Moi, je ne l'ai pas eu. C'est comme ça, c'est la vie.
L'année prochaine.
Je suis triste. Mais... non, mais ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ton boulot est super intéressant. Ton parcours est super inspirant, je pense, pour des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop encore comment se lancer. Et je pense que c'est important de partager. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être à partager quelque chose que tu aurais voulu entendre y a 5-6 ans quand tu commençais déjà à réfléchir un peu à ça? Ou peut-être un truc qui t'a aidé, que t'as entendu, ou un truc qui t'a fait passer à l'action, ou qui t'a fait comprendre qu'il fallait aller faire des lectures de portfolio, qu'il fallait tu vois, être plus actif dans ton boulot, non?
En fait, j'ai pas eu un déclic, c'est venu au fur et à mesure avec tous les lives que tu fais, à nous rabâcher les oreilles, vous devez faire ça, vous devez envoyer vos synopsis, vous devez faire relire. Donc, à force d'entendre les conseils, on peaufine et on s'améliore. Mais voilà, ça ne vient pas comme ça non plus, c'est du boulot.
C'est intéressant le fait qu'il n'y ait pas forcément de déclic, parce que c'est vrai qu'on... dans beaucoup de parcours, beaucoup de gens disent « j'ai eu un déclic à ce moment-là ». Et en même temps, du coup, l'externalité négative, c'est de dire si on n'a pas de déclic, on n'avance pas, tu vois. Donc, oui. Si tu dis que tu n'as pas eu de déclic, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est juste la progression et au fur et à mesure, ça... Ouais, c'est intéressant.
Ouais, après, il y a des hauts et des bas. Et c'est vrai que quand il y a des bas, c'est un peu compliqué. Et il faut savoir se remettre dedans et continuer. Ne jamais rien lâcher. Ouais. Ne jamais rien lâcher. Et puis, de toute façon, moi, je sais faire que ça. Donc, je n'aime que ça.
Ouais.
Je suis faite pour ça.
Super. Mais écoute, merci pour cet échange.
Et, merci Fred.
Et merci pour ton travail et bravo pour ton travail.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numériques que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.